les 5h en temps universel, 7h ici à Paris.
Clotilde Dumais.
Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour le début de ces 3 heures d'actualité internationale avec, vous le savez, nos reportages, nos séries d'été, nos chroniques, nos invités et notamment ce matin la voix d'une opposante russe, Olga Prokopieva, et sa réaction alors que l'un des derniers détracteurs du Kremlin vient de quitter la Russie pour se réfugier en France. Que reste-t-il de l'opposition russe aujourd'hui? Comment s'organise-t-elle à l'étranger? Elle nous en dira davantage dans un peu plus d'une heure. Pour l'instant, le journal international. Bonjour Fabrice Le Grier.
Bonjour Clotilde, bonjour à tous.
Et nous serons au Maroc dans un instant aux côtés de ceux qui ont tenté de rejoindre Ceuta la semaine dernière.
Et sur les quelques 72 000 personnes qui avaient franchi illégalement la frontière, près de 70 000 sont rentrées au Maroc. Et parmi elles, des profils très variés, beaucoup de jeunes notamment, qui nous expliquent pour quelles raisons ils ont tenté de fuir le royaume. Reportage à Casablanca à venir.
Les épisodes caniculaires et de sécheresse toujours d'actualité en Europe.
Des alertes canicules dans plusieurs pays, c'est le cas en Italie notamment. Et parmi ceux qui souffrent le plus, les travailleurs en extérieur. Et pour eux, la législation ne prévoit rien, absolument rien, vous l'entendrez. En France, le gouvernement vient d'annoncer un plan de soutien aux agriculteurs, mesure saluée par certains, jugée nettement insuffisante par d'autres.
Aux États-Unis, un scrutin clé hier dans l'État du Michigan.
Une primaire démocrate remportée par le progressiste Abdul El-Sayed, qui appelle au rassemblement de toutes les sensibilités au sein de son parti. Parti qui est divisé comme jamais, alors que les élections de mi-mandat se tiendront en novembre. Décryptage dans ce journal. Et puis nous parlerons aussi de Gianni Infantino, le patron de la FIFA qui n'en finit plus avec les scandales.
Le bilan de la crise à Ceuta continue de s'alourdir.
Selon les autorités espagnoles, 77 personnes sont mortes. Elles qui tentaient de rejoindre depuis le Maroc l'enclave espagnole située en territoire marocain. La plupart de ceux qui ont franchi illégalement la frontière la semaine dernière sont rentrés dans le royaume. Même si l'on constate parmi eux une grande diversité de profils, une catégorie sociale est surprésentée. Les jeunes des zones déshéritées, des grandes villes. Mathias Reynal est allé à la rencontre de ces candidats à la migration. De retour dans leur quartier à Casablanca, entre colère et soulagement, il raconte les raisons de leur départ. Reportage.
Une scène des plus banales. Ali se fait lisser les cheveux dans un salon de coiffure de la Médina. Il y a 6 jours, ce jeune homme de 22 ans est entré à Ceuta.
Ils nous ont martyrisés, on en souffre encore. Je remercie Dieu d'être encore en vie. J'ai vu la mort de mes propres yeux.
La Médina de Casablanca, c'est une poche de pauvreté au cœur de la capitale économique marocaine.
Il y a plein de jeunes qui sont partis d'ici. Moi, je ne regrette pas. Je veux continuer à essayer. Je vais continuer à penser à l'Europe jusqu'à mes vieux jours. Notre pays, il est beau, mais l'Europe, c'est mieux. Si tu restes ici, tu peux travailler 30 ans, mais tu vas faire du surplace, comme un hamster qui tourne dans sa roue.
À côté de lui, Mohamed, 17 ans, il en est déjà à sa 5e tentative d'émigration illégale en un an seulement.
J'ai fait de la prison 2 fois, j'en peux plus. Les psychotropes, le shit, l'alcool. Ici, on consomme toutes sortes de drogues. Puisque je suis encore mineur, en allant là-bas, je peux encore m'en sortir.
En 2025, au Maroc, 37% des 15-24 ans étaient au chômage. Mathias Reynal, Casablanca, RFI.
Et sur les quelques 72 000 personnes qui avaient franchi illégalement la frontière, près de 70 000 sont rentrées au Maroc. Près d'un millier d'enfants se trouveraient toutefois encore à Ceuta, le double même selon certaines ONG. Et pour eux, la situation est intenable. C'est ce qu'a déclaré hier le dirigeant de l'enclave espagnole. Les relations diplomatiques entre le Maroc et l'Espagne, nous en reparlerons avec Ricardo Fabiani, directeur du projet Afrique du Nord à l'International Crisis Group. Notre invité ce matin à 5h50 et 6h50 TU.
Dans l'actualité également, une bonne partie de l'Europe qui suffoque toujours en raison des fortes chaleurs.
Oui, en Italie notamment, où 27 villes sont placées en alerte rouge aujourd'hui. Cela concerne Palerme, Rome, Florence ou encore Turin. Une grande partie de la péninsule va donc devoir une fois encore supporter l'insupportable. Un climat très éprouvant qui n'en finit pas depuis la fin mai dans de nombreuses régions. Or, ceux qui travaillent en extérieur sont insuffisamment protégés faute de législation nationale. Anne Lenir.
Dans des villes comme Rome, lorsque le thermomètre affiche 39 degrés, le sol peut atteindre jusqu'à 75 degrés dans les zones très minéralisées, ce qui augmente les risques de stress thermique. Mais il n'existe aucune loi nationale sur l'adaptation du travail aux chaleurs extrêmes. Cependant, 16 régions sur 20 interdisent le travail entre 12h30 et 16h dans les secteurs où les travailleurs sont le plus exposés au stress passe thermique dès que la température dépasse 35 degrés. Certaines catégories de salariés, dont les ouvriers agricoles et du bâtiment, peuvent bénéficier du chômage technique. D'autres, comme les livreurs à vélo, sont exclus de cette aide financière. L'opposition réclame donc une loi pour mettre fin aux discriminations en imposant des règles nationales de temps de repos rémunéré. Mais le gouvernement Meloni refuse et privilégie les décisions au coup par coup pour ne pas nuire à la production industrielle. Anne Lenire, Rome, RFI.
Des épisodes de forte chaleur qui s'intensifient en raison du changement climatique d'origine humaine. Autre constat aussi, un manque cruel de pluie pour beaucoup ces dernières semaines et ces derniers mois. La France fait partie des pays qui souffrent d'une sécheresse extrême. Hier, le gouvernement a annoncé un plan de soutien aux agriculteurs qui sont en grande difficulté. Des mesures de soutien financier ainsi qu'une plus grande souplesse administrative. Réponse diversement appréciée par les principaux concernés, Nathanaël Vitran.
Charles de Bishop est agriculteur en Seine-et-Marne, élu FNSEA, le principal syndicat agricole, et président de l'organisme local de gestion de l'irrigation. Il décrit une situation très inquiétante.
Puisqu'on a eu 3 épisodes caniculaires cumulés en plus à une sécheresse, on n'a pas eu d'eau depuis presque 3 mois maintenant. Les cultures souffrent énormément, les betteraves sont toutes petites, voire pourrissent. Les éleveurs ont d'énormes problèmes puisque toutes leurs pâtures sont complètement sèches, donc ils n'ont aucune nourriture pour tous les élevages.
Il salue l'annonce de mesures de soutien, mais...
Sur le papier, quand je vois que là, début août, le ministère de l'Agriculture prend ça en main, je me dis, bon bah voilà, il nous écoute, c'est bien. Par contre, il faut pas que ce soit qu'une annonce, quoi. Il faut que ça se mette en place, de manière simple, très simple, quoi. Pas d'usine à gaz, pas de trucs compliqués.
Thomas Gibert est lui aussi agriculteur et porte-parole de la Confédération Paysanne, syndicat qui prône un changement de modèle.
Dans le milieu agricole, clairement, il y a une situation de peur par rapport à l'avenir que j'avais jamais vue auparavant. On ne sait pas trop où on va, quoi, pour les années à venir. Et clairement, au vu des prises de décisions politiques au niveau national, ce n'est pas vers l'adaptation du modèle agricole par rapport au dérèglement climatique que l'on se dirige.
Il regrette notamment une politique de l'eau qui favorise les cultures vouées à l'exportation aux dépens, dit-il, de la production de fruits et de légumes consommés localement.
Nathanaël Vitran.
Ces dernières heures ont été particulièrement meurtrières dans le sud du Liban, alors que les négociations entre Beyrouth et Israël sont toujours en cours.
L'armée israélienne a mené de nouvelles frappes hier en réponse, selon elle, à une violation du cessez-le-feu par le Hezbollah. Une personne est morte, 11 autres ont été blessés. Et on apprend ce matin que 2 soldats israéliens ont également été tués dans les combats. De quoi fragiliser donc les pourparlers qui doivent se conclure à Rome aujourd'hui. Ils portent, je vous le rappelle, sur l'accord cadre signé en juin. Accord qui prévoit le désarmement du Hezbollah ainsi que la fin des opérations militaires menées par Israël et son retrait dans le sud du Liban.
Autre négociation concernant cette fois la circulation dans le détroit d'Ormuz.
L'Iran affirme s'être accordé non pas avec Washington, mais avec le sultanat d'Oman. Tous deux sont riverains de cette voie maritime stratégique contrôlée par Téhéran. Alors pour l'heure, rien d'officiel. Les deux parties seraient en train de travailler sur une déclaration commune. Mais l'Iran pose ses conditions, à savoir que les États-Unis ne viennent pas entraver le processus.
Les États-Unis, où se tenait par ailleurs hier la primaire démocrate dans le Michigan, notamment, et victoire du progressiste Abdul El-Sayed.
Qui appelle désormais au rassemblement de toutes les sensibilités au sein de son parti. Objectif, battre les républicains de Donald Trump lors des élections de mi-mandat en novembre. Ce scrutin était particulièrement observé pour la course au Sénat. Les résultats sont tombés tardivement. Abdul El-Sayed l'a emporté de peu face à la centrale. Triste Hayley Stevens, 49,5% contre 48,5%. L'aile progressiste du parti espérait bien plus, François-Damien Bourgerie.
Les progressistes s'attendaient à un écart à 2 chiffres, un résultat qui leur aurait permis de s'imposer comme la force dominante dans le Michigan et taclé pour reprendre le contrôle du Sénat en novembre, puis de la Maison-Blanche dans 2 ans. Un résultat qui surtout leur aurait permis de plier le match face à l'aile modérée du parti après leur succès à New York, en Californie, dans le Maine et le Colorado. Ils n'obtiennent finalement qu'une victoire sur le fil, tout en enregistrant dans le même temps une défaite dans le Missouri. Les questions qui divisent les démocrates, fracturés plus que jamais, restent donc en suspens, notamment sur la question du soutien à Israël. Faut-il faire campagne contre les crimes commis à Gaza et en Cisjordanie ou au contraire pour le maintien de l'aide militaire. Pendant ce temps, les républicains, eux, continuent de suivre la ligne de Donald Trump. Dans le Kansas, le Michigan et l'État de Washington, ce sont encore des candidats qu'il soutient qui ont remporté les primaires du parti.
François-Damien Bourgerie.
En parlant de scrutin, on prend la direction d'Haïti.
Où des élections générales sont prévues en décembre et en février prochain, les premières en plus de 10 ans si elles venaient à se tenir. Et cela fait une semaine maintenant que le Conseil électoral provisoire a officiellement lancé les opérations d'inscription sur les listes dans le département de l'Ouest, celui qui comprend la capitale, Port-au-Prince. Dans les autres départements, elles ont été lancées le 20 juillet. Près de 60 000 électeurs se sont inscrits dans les différents centres ouverts à travers le pays. Pas vraiment la grande affluence. Le Premier ministre tente donc de mobiliser les foules, Peter Sanluksama.
Il a voulu montrer l'exemple. Mardi, Alix Didier Fizemé s'est présenté dans un centre d'inscription de Pétionville.
Je suis venu m'inscrire comme tout citoyen afin de remplir mon devoir civique. Les citoyens veulent choisir leurs dirigeants pour conduire le pays. Le gouvernement prend donc toutes les dispositions nécessaires pour accompagner le Conseil électoral provisoire afin de rendre le scrutin possible.
Des élections indispensables pour sortir le pays de cette longue transition, estime Jeannette, 38 ans.
J'étais venue près d'ici pour toute autre chose et j'ai constaté que les inscriptions avaient commencé. Et comme j'attendais ce moment depuis longtemps, j'ai décidé de m'inscrire immédiatement. Je suis vraiment contente de voir qu'enfin les élections semblent pouvoir se tenir. Nous aurons un président et j'espère que ça permettra au pays de retrouver un fonctionnement normal.
Même enthousiasme chez Jean-Baptiste.
Toutes les démarches visant à sortir Haïti de cette crise méritent notre participation. Peu importe la personne qui sera élue à la tête du pays, elle devra prendre ses responsabilités. Elle ne doit pas gouverner pour ses intérêts personnels pendant que la population continue de souffrir.
Mais alors que le Conseil électoral provisoire met les bouchées doubles, bon nombre de citoyens sont encore sceptiques quant à la tenue réelle des élections dans un pays gangréné par la violence des gangs. Peter Sanluksama, Port-au-Prince, RFI.
Et puis les polémiques s'enchaînent en Fabrice autour du président de la FIFA, Gianni Infantino.
La Fédération Internationale de Football a tenté de dégonfler l'une d'elles hier, celle concernant l'ouverture aux investisseurs privés d'une partie des droits commerciaux de la Coupe du Monde. Projet avorté.
Tears I find no consolation, 'cause you took away all of my will to live. Don't you know I just die a little each day ever since you've been gone away. Baby, won't you please, oh please, come back home. Oh, each day seems like a lifetime, and my poor heart can't stand the strain. Oh, won't you please reconsider, baby, and don't let my life wash down the drain. I know I just die a little each day ever since you've been.
We like your hair, we like your nose. Everybody gonna get one of those. The bullets for the magazines, paparazzi.
paparazzi shooting like soldiers in the teens. I'm just a teenage girl sitting in my room with the booty for me. We're looking for a room, oh, to look like you, to look like you, oh, to look like you. I'm gonna burn my skin, I'm gonna cut my hair, I'm gonna grab a bit of meat and stick it over there. I'm gonna take my meal of two white pills, cause I'm gonna look like you, yes I will. Gonna say right out to the great white dream, cause I too wanna be a beauty queen. I'm just a teenage girl sitting in my room with the bullet for me, we're looking for a room.
Cette radio associative s'est rendue indispensable.
C'est vraiment la radio moderne qui apporte quelque chose.
C'est une radio libre.
Une radio libre.
À Évreux 102.4, dans le sud de l'Eure 95.9 et partout ailleurs sur principactif.net.
Ça va, je crois que vous n'êtes pas encore prêts pour ce genre de choses. Par contre, vos gosses vont adorer ça.
ونعيش الأمل بشدة ونجعل جنة ذو صحاري
جميل.
ذو سحر.
Mettez bien dans le mille, B.I.G. en Eddie, check ça. Reste de K, de Z dans la supply. Exclusive.